Salut et bienvenue. Les choses sérieuses commencent. Non pas au niveau du contenu, où c'est déjà sérieux depuis un petit temps, mais bien au niveau de la validité des informations. En effet, en septembre 79, j'ai commencé à recevoir des revues où l'on trouvait les programmes télé. Et j'en ai conservé assez que pour pouvoir me baser là-dessus pour la partie 79-82. Donc plus de détails, mais on gardera une limitation dans les choix des extraits pour ne pas rallonger la durée totale de chaque podcast. Donc, let's go pour le second semestre 79. Générique. D'abord au niveau des événements historiques. On peut signaler la fameuse crise des otages américains en Iran qui a permis d'en tirer quelques films par la suite. Il y a aussi eu l'ouragan David qui frappa le bassin de l'océan Atlantique Nord avec des vents à plus de 280 km par heure et qui a amené malheureusement plus de 2068 morts. Au niveau du sport, notons le deuxième Tour de France consécutif gagné par Bernard Hinault. Autre catastrophe dans l'année, la rupture du barrage du Machu en Inde qui a entraîné une estimation d'environ 5000 morts dans la ville de Morvi. Enfin, en fin d'année, suite à l'instabilité politique dans la région, on voit une intervention militaire soviétique en Afghanistan qui amènera une occupation du pays durant près de 10 ans. Voilà, abordons maintenant les souvenirs médiatiques qui sont au cœur de cette émission. Commençons par le cinéma en cette deuxième partie d'année. D'abord, en septembre, débarque sur les écrans un film de science-fiction horrifique américain réalisé par Ridley Scott avec Sigourney Weaver. Durant le voyage retour du cargo spatial Nostromo, après une mission commerciale de routine, l'équipage, 5 hommes et 2 femmes plongés en hibernation depuis plus de 10 mois, sont tirés de leur léthargie plutôt que prévu par l'ordinateur de bord du vaisseau. En effet, il a capté des signaux radio inconnus dans l'espace. Et, du fait d'une clause attenant à leur contrat de navigation, l'équipage du vaisseau est tenu de vérifier tout un disque de vie extraterrestre. Ce pitch d'introduction, vous l'avez sans doute tous reconnu. Ce sont les premiers instants d'un film qui allait démarrer une très longue saga, pendant de très longues années. Là où dans l'espace, personne ne vous entendra crier. C'est Alien.
Marge, est-ce que tu vois ça?
J'ai jamais vu une chose pareille.
Il change le camp.
On n'est pas venu jusqu'ici pour rien. Il faut y aller.
Ça bouge. On dirait qu'il y a une vie organique.
Autre film le même mois, un film qui était sorti 12 jours avant l'accident nucléaire de Three Mile Island, aux États-Unis. Nous en avons déjà parlé. C'était le plus grave accident nucléaire dans l'histoire des États-Unis et il abordait le même sujet. Le film en question est fondé sur un scénario qui envisage la possibilité de l'emballement d'un réacteur nucléaire d'une centrale, conduisant celui-ci à faire fondre son enceinte de confinement, traverser le sol, s'enfoncer jusqu'au centre de la Terre, voire jusqu'en Chine, comme le laisserait supposer le titre du film dont je vais vous passer un extrait. Ce film a un casting de qualité, avec Jane Fonda, Jack Lemmon et Michael Douglas, qui étaient des acteurs réputés pour l'époque, et il s'appelle « Le syndrome chinois ».
Jane Fonda.
Let's face it, you didn't get this job because of your investigative abilities. Kimberly, don't fight it.
Jack Lemmon.
There was a vibration!
Michael Douglas.
I don't know that accident is the right word.
Accident is the right word!
Only a handful of people know what it really means. And they're scared.
Everybody keep your station! Everybody keep your station!
Soon, you will know. The China Syndrome.
Le mois suivant, on a droit au 11e James Bond, avec Roger Moore dans le rôle de 007. Il enquête sur la disparition d'une navette spatiale américaine. Lois Childs est la James Bond girl de cet opus. John Barry compose la musique du film. La chanson du générique, elle est interprétée par Shirley Bassey. Le film s'appelle Moonraker.
Thank you. notre planète est un tremplin pour l'aventure dans l'espace.
La fin d'année se rapproche et un Disney est remis sur les écrans. C'est l'histoire d'un petit homme abandonné dans la jungle qui va apprendre à se débrouiller grâce à l'aide d'un ours et aussi d'une panthère. Il va devoir se défendre devant un tigre qui veut le tuer. Vous avez tous bien évidemment reconnu le livre de la jungle avec Mowgli, Baloo, Bagheera et Shere Khan.
Un chef-d'œuvre de Walt Disney. Vous vous écroulerez de rire. C'est drôle, c'est rythmé, c'est génial. Le livre de la jungle.
Ensuite, un film comique français qui deviendra culte et qui surfe sur le bon résultat du premier épisode qui est sorti un peu auparavant. On parle de nouveau d'une bande de potes qui se retrouvent au sport d'hiver pour vivre des aventures comiques et décalées. Bah, tout le monde se souvient de la raclette en chalet de montagne et du planté de bâton. Oui, vous avez tous reconnu les bronzés font du ski.
Bon, bah, qu'est-ce que c'est que ça ?
Non, mais ça c'est rien, ça arrive souvent cette saison. Ici, on risque rien, on peut s'arrêter 5 minutes, là.
Le seul qui m'accable pas.
Charles, je vais te tuer ! Je vais te tuer !
Oh !
Le dernier film que je vais ramener dans votre mémoire est sorti en décembre. Je l'ai sans doute vu par la suite lors d'une rediffusion télévisée. Il n'a plus, je pense, souvent été rediffusé depuis. Son acteur principal est un Yves Montand au sommet de sa carrière. Il raconte l'histoire d'un procureur, Henri Volney, qui s'est penché sur le décès d'un président et qui refuse les conclusions de l'enquête. Il parvient à interroger un témoin qui lui dévoile la part d'ombre de cette histoire. Mais les auteurs du meurtre ne souhaitent pas qu'ils découvrent la vérité. Cette histoire m'avait marqué aussi parce qu'elle aborde également le principe de l'expérience de Milgram sur la soumission à l'autorité. C'est la musique de Ennio Morricone qui empaquette ce film. Elle est parfaite et le titre du film résume bien la trame de celui-ci. C'est un bon souvenir pour moi pour l'époque. Le film s'appelle Icomicar.
Minos adopte le déclenchement de l'opération Icomicar. L'opération I comme Icar doit intervenir le 17 juin avant minuit.
Vous êtes un parfait salaud, vous, hein ?
Eh bien, il faut choisir, monsieur. Le parfait salaud ou le tueur ?
Police ! Personne ne bouge ! Tout le monde les met en l'air ! Sur la terrasse, je l'ai vu tirer.
Alors, abordons maintenant la télévision. Commençons par, comme d'habitude, la RTBF. Les émissions commencent toujours à 14h en semaine avec la télévision scolaire, à 16h le samedi et le dimanche nous propose juste une plus grosse journée grâce à la messe et à l'émission d'information Faire le point dès midi. Au niveau des programmes pour jeunes, on a toujours Boulébil le samedi, Calimero le dimanche, Barbapapa le lundi, Vic le Viking et des contes, dont les fameux contes japonais les autres jours, mais il y a quand même une grande nouveauté sur laquelle je vais m'arrêter quelques instants. Tous les jours de la semaine, à 18h15, on trouve un nouveau dessin animé qui démarre en hebdomadaire au même moment dans Les Visiteurs du Mercredi. Donc la RTBF va passer beaucoup plus rapidement l'ensemble des épisodes que TF1. L'idée des programmateurs, d'un côté et de l'autre je suppose, est de combattre le succès de Goldorak sur son terrain, c'est-à-dire avec une série qui reprend l'idée de terriens qui combattent des envahisseurs extraterrestres. Pour ce faire, les studios Sandy Frank ont repris un dessin animé japonais relativement violent, Gatchaman. Ils en ont expurgé les séquences les plus délicates et les ont remplacées par des dessins faits par eux, et pour conserver une durée d'épisode correcte, par des séquences rajoutées en plus avec deux robots qui essayent d'ajouter une certaine note d'humour. L'histoire est celle de cinq jeunes gens hyper doués, Marc, Thierry, Princesse, Allumette et Kipo, qui constituent la Force G, une équipe d'intervention chargée de protéger la Terre. Ces héros luttent principalement contre les forces de la planète Spectra, à leur tête, le sinistre Zoltar. Ils sont secondés par les robots 7 Zark 7 et un Nonos 1 qui travaille depuis une base sous-marine. Cette série, qui sera donc en avant-première sur la RTBF et puis par après sur TF1, s'appelle La Bataille des Planètes. Elle aura un certain succès, on va dire, et on va aussi beaucoup jouer à La Bataille des Planètes dans la cour de récré.
La Bataille des Planètes. Le groupe d'intervention G. Princesse, Allumette, Tipo, Marc, Thierry. Le quartier général sous-marin Neptune, supervisé par un ordinateur de la 7e génération, 7 Zark 7. La force G, ce sont ces 5 jeunes hyper doués qui protègent les planètes de notre galaxie. Toujours ensemble, unis comme les 5 doigts de la main. Incorruptibles, inséparables, invincibles.
Le mercredi, c'est toujours feu vert pour les jeunes, avec entre autres la série Flèche Noire. C'est une histoire qui se déroule au XVe siècle en Angleterre, pendant la période troublée de la guerre des Deux Roses. Le jeune héros, Richard Dick Shelton, découvre que le responsable du meurtre de son père n'est autre que son tuteur, Sir Daniel Brackley. Il rejoint alors les rangs des hors-la-loi de la Flèche Noire au sein de la forêt de Tunstall pour accomplir sa vengeance. On a aussi la série Le Robinson Suisse dont nous avons déjà parlé, ainsi que Titi et Gros Minet. Au niveau des séries, on a Ma Sorcière Bien-Aimée, et en hebdomadaire apparaît L'île aux 30 cercueils, qui raconte l'histoire d'une jeune femme de 35 ans devenue infirmière à l'hôpital militaire de Besançon, dans l'espoir d'oublier un passé qui la hante depuis 14 ans. On a toujours chapeau melon et bottes de cuir, mais cette fois-ci sur la RTBF2. Le samedi, on a l'émission hebdomadaire de Georges Prades, qui initie à la photographie, les mystères de la chambre noire. Maintenant, il y a l'apparition des émissions Contact sur la sécurité routière, Autant savoir, le magazine des consommateurs, et Antenne Soir, qui aborde la vie des régions. Débute aussi l'émission Au nom de la loi. C'est un magazine d'information de la RTBF, produit par le centre de production de Charleroi, qui évoque les grandes affaires judiciaires qui ont traversé l'histoire de la Belgique. Malheureusement, de toutes ces émissions, on ne trouve pour l'instant que des extraits beaucoup plus récents que cette époque, donc je ne peux pas vraiment vous en faire profiter. Il y a aussi l'émission Génération 80, avec une toute jeune Fabienne van der Merch à la présentation. Cette émission présente les artistes du moment et leurs tubes. Elle deviendra d'ailleurs culte dans les années qui suivront, et à mon avis nous en reparlerons. Sur la 2, j'en ai déjà parlé, il y avait certaines choses, mais une émission est un peu plus marquante. C'est l'émission présentée par Jean-Luc Menessier, qui était Fa, c'est facile à chanter. C'est une espèce de déclinaison de l'école des fans à la belge. Voilà, nous pouvons maintenant parler d'RTL. Au niveau de RTL Télé Luxembourg, on peut se souvenir du fait que les émissions s'interrompaient entre le début d'après-midi et le début de soirée. C'était quelque chose qui était un peu marquant à l'époque. En semaine et le samedi, on a toujours la bonne franquette avec ses séries. Citons par exemple dans ses séries Cher Oncle Bill, qui racontait l'histoire d'un riche célibataire, Bill Davis, qui se voyait confier la guerre de ses neveux. Cécile, une adolescente de 15 ans, et les jumeaux de 6 ans, Jackie et Fanfan.
Cher oncle Bill.
«
avec Brian Keith. Et Sébastien Tabasco.
Ou encore la rediffusion de Rintintin et Rusty, qui compte les aventures d'un jeune garçon au fort Apache, parmi le 101e régiment de cavalerie. Son chien, un superbe berger allemand, qui l'aide dans ses missions et qui le sauve quand il est dans les problèmes. Il y a aussi Les Aventuriers, qui met en scène les mésaventures de Gene Bradley, un célèbre acteur de cinéma travaillant secrètement pour une agence gouvernementale américaine. Passé maître dans l'art du déguisement, il infiltre les milieux de la politique et des affaires à travers le monde. Au niveau des autres émissions, il y avait toujours Les Sentiers de l'Aventure, Entre Chien et Chat, La Vie Secrète des Animaux, ou De 5 à 7. On retrouve toujours le super jukebox d'André Torrent, ainsi que Le Monde Merveilleux de Walt Disney le samedi. Il y a toujours les jeux, Le Coffre-Fort, Le Menteur, Le Système D. En ce qui concerne les autres séries, on retrouve par exemple L'Homme de Fer, Hawaii Five-O, et des retours du passé de séries à succès. Il y avait Mon Ami le Fantôme, qui raconte l'histoire de Marty, un détective tué par un assassin qui prend la fuite. Ne pouvant entrer au paradis, il devient une âme errante. Son associé Jeff parvient néanmoins à le voir. Alors Jeff et Marty continuent leur association afin de permettre à Marty de pouvoir partir en paix s'il effectue assez de bonnes actions sur Terre. Faut-il aussi encore présenter Star Trek, cette série qui amenait l'équipage de l'Enterprise vers des découvertes de planètes inconnues. Ou encore Voyage au fond des mers, qui mettait en scène les aventures fantastiques du sous-marin nucléaire expérimental Neptune et de son équipage. Encore une chose importante, le 3 septembre 79, RTL lançait une nouvelle émission enfantine, Citron Grenadine. Chaque mercredi après-midi, en lieu et place de la légendaire école buissonnière de Claude Robert, qui existait pourtant depuis le lancement de la chaîne en 55, les enfants ont découvert Citron Grenadine. À ce moment, on commande du nouveau rendez-vous deux visages familiers, Michel Hetzel et Georges Lang. Ils ne feront qu'une saison et seront remplacés par de futures stars de la chaîne, mais nous y reviendrons. Passons maintenant sur les chaînes françaises. Pour les enfants, TF1 propose une nouveauté qui a pour objectif de conscientiser les enfants à la sécurité routière. Ceci dans l'émission Au plaisir du samedi. Cette nouveauté, c'est Plume d'élan.
Yahoo! La devise des peaux rouges, c'est qu'un indien prudent en vaut deux. Cowboy et bison, quelle circulation sur les sentiers pour faire attention.
On y retrouve également les aventures de Samson et Goliath. Samson est un jeune homme ordinaire qui parcourt le pays en moto en compagnie de son petit chien, Goliath. Mais dès que survient un danger, Samson frappe l'un contre l'autre les bracelets magiques qu'il porte au poignet, prononce les paroles « La force Samson » et se transforme en super-héros doté d'une force herculéenne. Lorsqu'il dirige sur son chien l'onde de choc des bracelets en criant « La puissance Goliath », le chien se métamorphose en un gigantesque lion dont les yeux lancent des rayons au pouvoir destructeur. Dans les visiteurs du mercredi, on retrouve des dessins animés qui ont déjà fait leurs preuves, comme Dinky Duck, Ding Dang Dong, Vic le Viking ou encore Zorro. Comme je le disais, en parlant de l'RTBF, la guerre avec Goldorak est enclenchée avec le débarquement de la bataille des planètes, une fois par semaine, contrairement à cette RTBF. Autre nouveauté de cette rentrée, les Poi Poi, un nouveau programme de marionnettes mettant en scène les fameux Cyborg et Bora. Lancé par des épisodes amusants sous forme de jeux télévisés opposant terriens et extraterrestres, cette sympathique série dériva très vite sur les parodies historiques qui firent sa renommée.
Nous sommes une troupe de dragons copains. Nous chantons en groupe de joyeux refrains. C'est pour vous séduire qu'on s'est fait vos bien habillés. Si on vous fait rire, on aura gagné.
Pourquoi que tu tout petit tout, Poi Poi?
On découvre aussi les aventures du Capitaine Caverne, série qui se centre sur les aventures de trois jeunes femmes, Brenda, Lily et Babette, et de leur ami le Capitaine Caverne, un homme préhistorique piégé dans un bloc de glace avant d'être découvert puis libéré par les trois jeunes femmes.
Capitaine Caverne !
Trois drôles de filles exploraient une caverne au fin fond du Tibet quand elles se trouvèrent nez à nez avec un homme préhistorique, le Capitaine Caverne. Il allait devenir le meilleur ami de Brenda, Lily et Babette. Et aujourd'hui, il les accompagne dans les missions les plus périlleuses.
Enfin, une petite souris fait sa réapparition dans les visiteurs. La souris la plus rapide du Mexique, Speedy Gonzalez. En dehors des visiteurs du mercredi, on a toujours l'île aux enfants, l'après-midi en semaine à 18h30. Et en dehors des émissions pour enfants, TF1 propose toujours Midi Première, C'est arrivé un jour, Réponse à tout, et dans les séries Le Commissaire Moulin ou encore, par exemple, Les Mystères de l'Ouest. Mystères de l'Ouest qui sont les aventures de deux agents de l'United States Secret Service, au nom du président des États-Unis, Ulysses S. Grant. Il y a James T. West, un homme d'action, et Artemus Gordon, un as du déguisement et des inventions anachroniques. Sur Antenne 2, on sent que l'équilibre avec TF1 est en train de plus en plus de se remettre en place, et ça ne fera que se confirmer dans la décennie qui suivra. Cette partie de l'année est remplie de réussites. Pour commencer, Récréa 2 reçoit un nouveau générique. En fait, c'est le précédent, mais maintenant chanté par Dorothée.
Récréa 2, amusons-nous, rêvons un peu, oublions tout. Récréa 2, c'est un pays.
Ensuite, Récréa 2 passe en journalier et plus en hebdomadaire. Plus d'émissions, ça veut dire plus de contenu. Et là encore, la qualité va nous amener bien des surprises. Bien évidemment, on a toujours Goldorak, toujours Candy, toujours Watou Watou par exemple. Pour les plus petits, on retrouve alors de jolies animations. L'une en pâte à modeler, l'autre en papier découpé et animé. Ce sont Miao Mao et Kwakwao. Il y a aussi le mignon petit dessin animé Emily.
C'est moi, Emily, votre petite amie gentille. Mais oui, vous me reconnaissez, c'est tout de rouge que je m'habille. Ma robe, mon bonnet et mes souliers, parfois ma petite grand-mère.
On retrouve également Titier Grominet, par exemple les Robonix ou Félix le chat. Puis, alors que TF1 essayait donc de lutter contre Goldorak dans le cœur des plus jeunes avec la bataille des planètes, Récréa 2 allait le samedi faire une espèce de jeu 7 et match pour sa victoire de l'année, avec une série de science-fiction, au départ pâle copie de la guerre des étoiles, mais pour l'époque quand même vachement bien faite. L'histoire est la suivante. Aux confins du cosmos, le 15e système solaire est composé de 3 planètes, Annalis, Shelta et Belda. Golem 13 a décidé d'assouvir sa soif de domination en l'envahissant avec ses hordes de Stressos, dirigées par Volcor, Comenor et Furia. Après avoir terminé ses études, le pilote intersidéral Hayato s'apprête à rejoindre son père chez lui sur Annalis. Naviguant à bord d'un vaisseau cargo piloté par Ryu et l'homme singe Siman, le jeune Hero arrivera trop tard pour sauver sa famille. L'invasion a déjà commencé. Très vite, il deviendra Staros, tandis qu'Hayato sera le fantôme. Ensemble, et avec l'aide du vaisseau Sankukai, offert par la princesse Eolia, ils vont mener une lutte contre les Stressos et leur Laserolab, lancé du Cosmosaur. Oui, je suppose que vous avez tous au moins une fois entendu parler de Sankukai. Quant au dimanche, l'offre enfant permet de voir le retour de Shazan. En fait, on parle des jumeaux Jacques et Hélène qui découvrent dans une grotte un vieux coffre contenant une bague bien étrange. Elle est scindée en deux parties, et sur chacune d'elles figure la moitié d'un mot. Jacques et Hélène réunissent les deux parties de la bague et lisent à voix haute le nom qui se forme, Shazan. Aussitôt, les voilà transportés en une cité d'Orient, au pays des mille et une nuits. En ces lieux, ils font la connaissance d'un génie gigantesque. Il leur promet de venir à leur secours dans le danger, chaque fois qu'ils joindront les deux moitiés de la bague en criant Shazan. Pour compléter son offre, Récréa 2 se tourne également vers les enfants malentendants, avec mes mains en la parole. Ils mettent en place une séquence d'initiation musicale à la musique classique avec Sido et Rémi, et une émission visant à transmettre des connaissances sur l'électricité aux enfants avec Zeltron, un extraterrestre de la planète Zeltronine.
Thank you.
Comme vous pouvez l'imaginer, il y a énormément de matière rien que sur ces émissions jeunesse. Mais il y avait aussi d'autres émissions et séries alors que la chaîne évolue. D'abord, comme sur le service public belge, on retrouve Le Retour du Saint et L'île aux 30 cercueils. On retrouve également un western sur la piste des Cheyennes. Et aussi, un feuilleton qui va avoir un petit succès, même si c'est un ancien feuilleton, ce sont Les Arpents Verts. Les Arpents Verts racontent l'histoire d'un brillant avocat de New York qui décide de changer radicalement de vie en effectuant un retour à la Terre. Il achète une ferme délabrée dans la petite localité de Outerville et s'y installe avec son épouse Lisa. S'il fait preuve d'une indéniable bonne volonté, qui ne suffit pas toujours à compenser ses incompétences, Lisa, sa charmante et cervelée d'épouse qui n'a jamais quitté la ville, a toutes les peines du monde à s'adapter à sa nouvelle vie de fermière.
Les arpents verts, les champs, les bois, les chemins creux, c'est fait pour moi. J'aime les coins-coins des petits canetons et les bébés, des bébés, des moutons.
Moi, j'aime New York et son emprunt. L'herbe, ça me donne le rhume des foins. J'aime l'animation des carrefours. Je t'adore, mon amour, mais rends-moi mes faubourgs. Adieu, ma belle vie.
À temps vers nous voici.
On a également une rediffusion d'une série qui avait déjà eu un beau succès l'année passée, Les Drôles de Dames. C'est ce fameux trio de femmes détectives, surnommées Les Anges en version originale, travaillant pour un millionnaire anonyme nommé Charles Townsend. Je pense qu'on en reparlera dans le futur, car c'est une série qui est quand même revenue souvent dans les années 80.
Il était une fois, trois filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Charlie, je les ai sortis de ce cauchemar pour les engager. Et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Le dimanche, on retrouve également Les Têtes Brûlées, série inspirée des exploits de Gregory Papi Boynton et de son Black Sheep Squadron, durant la guerre du Pacifique, lors de la Seconde Guerre mondiale. Cette série met en scène les aventures de ces pilotes anticonformistes et téméraires, pilotant leurs corsaires. Je pense aussi qu'elle reviendra à d'autres moments. Ce sont donc Les Têtes Brûlées.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le commandant des marines, Greg Papi Boynton, était à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse. Celle-ci était composée de marginaux et d'aventuriers qui devinrent les terreurs du Pacifique Sud. On les appelait les Têtes Brûlées.
Enfin, je m'en voudrais de ne pas citer un feuilleton qui m'a énormément marqué et qui passait également à cette époque sur Antenne 2. La légende de James Adams et de l'ours Benjamin. C'est l'histoire de James Adams qui, à la suite d'une accusation de meurtre, devient un fugitif. Il s'abrite dans les montagnes sauvages et en chemin, il sauve un bébé grizzly qu'il élève et prénomme Benjamin. L'homme des bois devient alors ami avec le minier Jack, qu'on surnomme le radoteur, et l'indien Nakoma. Cette série, c'est donc Grizzly Adams.
L'histoire de James Adams est étonnante et merveilleuse. Moi, on m'appelle Jacques le radoteur, et avec mon bourricot numéro 9, nous nous sommes promenés longtemps dans ces collines. Alors je connais toute l'histoire à fond. Mon ami Adams avait été accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Alors il s'était enfui dans les montagnes, en abandonnant la seule vie qu'il ait jamais connue. Des mois plus tard, il découvrit un jeune ourson perdu. Il était seul et sans défense. Adams savait qu'il était condamné à mort tout seul. Alors il n'hésita pas à risquer sa vie pour le tirer d'affaire. Et l'ourson adopta Adams en 2 secondes. Ce jour-là, il découvrit qu'il lui était possible de se faire comprendre des animaux. Et il n'hésitait pas à s'approcher de lui comme s'il avait toujours fait partie du décor. Mais cet ours sortait vraiment de l'ordinaire. En grandissant, il devint le meilleur ami qu'Adams ait connu. Et ensemble, ils entrèrent dans la légende.
Et voici pour la seconde chaîne, qui devient une concurrente sérieuse à la première. Alors, quid de la petite dernière? Eh bien, FR3 continue son démarrage à 18h avec des émissions et des actualités régionales françaises. Il y a bien sûr toujours les jeux de 20h comme tête de pont. Au niveau des séries, on a par exemple une rediffusion de Thierry Lafronde, qui raconte les histoires de Thierry de Janville et de ses compagnons, qui ont été déclarés hors la loi par Édouard, le prince de Galles. Ils résistent et espèrent le retour du roi de France, Jean II. les enfants, il y a toujours les aventures de Tintin. Et lorsque, dans ce créneau, ces aventures se termineront, on aura droit à Bucky et Pepito, un petit dessin animé assez ancien qui n'aura pas marqué beaucoup d'esprit, je pense. Puis également vient du catalogue Hanna-Barbera une série qui parle d'un journaliste en mal de scoop qui, lorsqu'un problème se fait sentir ou que des criminels se manifestent, n'a qu'un petit bouton à presser pour transformer son pauvre véhicule en super bécane, une moto vivante capable de prendre n'importe quelle forme. On trouve malheureusement très peu de traces de cette série, même si elle a marqué quelques esprits, j'ai juste trouvé un petit morceau du générique de départ. Voilà, le tour de cette dernière année des années 70 est ainsi fait. Il y a un peu moins de matière, ayant déjà beaucoup parlé dans la première partie de ce qui passait. Mais on peut maintenant envisager le démarrage d'une nouvelle décennie qui va apporter vraiment son lot de nouveautés qui vont marquer nos mémoires. Une nouvelle fois, ce sera pour le prochain épisode. Allez, on en reparle bien vite et d'ici là, comme disait Jean Topard.
Au revoir, à bientôt.